Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre d'été, on est ensemble jusqu'à 19h. Vous avez le sens de l'écoute, le goût des responsabilités, vous aimez l'administratif autant que le terrain, vous excellez dans la résolution de conflits entre voisins, vous avez des compétences de chef de chantier et d'assistante sociale, vous êtes d'une disponibilité totale et bien sûr, vous n'avez pas beaucoup de prétentions salariales. Eh bien, félicitations, vous avez le profil idéal de candidat au poste de maire dans n'importe quelle commune française. Et cela tombe bien, car il y a de la demande. Selon des chiffres publiés par l'AFP, la semaine dernière, les démissions de maires seraient en hausse de 55% depuis 2014 par rapport à la mandature précédente. Et certaines communes s'inquiètent déjà de ne pas trouver de candidats en 2020. Les maires sont pourtant les élus préférés des Français, ceux en qui ils ont le plus confiance. Alors que signifie cette crise des vocations? Les maires sont-ils à bout de souffle? C'est la discussion que nous aurons ce soir jusqu'à 19h et ils sont trois invités dans le studio. Gilles Le Proust, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maire PCF d'Allonne, la commune d'Allonne dans la Sarthe, depuis 2008, qui se trouve, on va dire, dans la banlieue du Mans, sud-est du Mans, c'est ça ?
C'est ça, oui.
Et vous êtes aussi membre du bureau exécutif de l'AMF, l'Association des maires de France. Vous êtes secrétaire général de l'association Ville et Banlieue, cela depuis 2006, et puis vous êtes vice-président de Le Mans Métropole. Deuxième invité ce soir, il se trouve à Nantes dans les studios de France Bleu Loire-Océan. Il s'agit de Pierre Brajou. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président de l'Association nationale des directeurs d'associations départementales de maires, l'ANDAM. L'ANDAM, c'est un réseau d'associations autonomes qui propose de la formation, de l'information, de l'assistance juridique aux communes. C'est une association neutre et pluraliste. Est-ce que vous voulez compléter la présentation que je viens de faire de l'ANDAM ?
Vous avez fait une excellente présentation. Nous avons mission au niveau de l'ANDAM d'accompagner les directeurs d'associations départementales de maires pour faciliter leur travail aux côtés des élus locaux.
Et puis, dernier invité, Luc Rouban, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, spécialiste de la fonction publique, vous êtes directeur de recherche au CNRS, auteur notamment de « La démocratie représentative est-elle en crise ?» C'était à la Documentation française publiée cette année. Et puis un ouvrage à paraître en septembre, « Le paradoxe du macronisme », ce sera aux presses de Sciences Po.
Vous avez quelqu'un qui vous dit, si vous n'agissez pas, je vais descendre à la mairie, avec une Kalachnikov, il n'y a plus aucune barrière. On a l'impression qu'à partir du moment où vous êtes politique, vous pourriez tout encaisser. Et je crois qu'on se rend pas compte qu'à quel point, quand on est mis plus bas que terre, parfois, il pourrait y avoir des drames personnels, il faut être vraiment très fort.
On est les pitres, nous. On est les bons à payer. On est considérés comme des ploucs. Hein. On n'est pas du tout entendus, hein, je peux vous le dire là-dessus. Ils s'en foutent. Tous les décideurs. Moi, je les appelle les costumes cravates, hein, costumes trois pièces. Ces gens-là, dans les discussions, nous, les petites communes, rien à faire.
Je crois qu'il y a de l'arrogance au niveau de l'État. Il y a un manque criant de connaissance du terrain. Je crois qu'ils ne savent pas, ils sont totalement hors sol. Et le problème, c'est que les maires des communes rurales subissent ce dédain et le vivent très mal.
Pourquoi je quitte ? Parce que le matin, il faut avoir la niaque pour repartir, quoi. Pour aller bosser, pour aller rencontrer les gens, pour travailler. Et puis je trouve que les rapports sociaux sont de plus en plus tendus, c'est difficile. Et si t'as pas la niaque, voilà, c'est compliqué. Il y a une forme de bureaucratie qui bouge pas. On sent que, voilà, il y a un blocage, il y a un immobilisme.
Voilà, c'était les témoignages de Véronique Lay, ex-maire de Croutelle, Louis Gentilhomme, ex-maire de Saint-Seine-sur-Vignane, Philippe Rion, ex-maire de Castillon et Stéphane Gatignon, ex-maire de Sevran. Luc Rouban, est-ce qu'on pourrait dire qu'il existe aujourd'hui un malaise spécifique dans les communes, chez les maires, qu'on ne retrouverait pas à d'autres échelons, à l'échelon régional, l'échelon national? Quel est ce malaise spécifique aux maires dont on a entendu ici quelques témoignages?
Bon, ce malaise est spécifique, mais en partie seulement. Je crois qu'il s'insère dans un moment de crise de la démocratie représentative. Donc, il s'insère dans un élément, dans un contexte, si vous voulez, c'est un élément d'un contexte plus vaste, plus complexe, à la fois de perte de confiance dans les élus, d'exigences supplémentaires à leur égard. Et les maires constituent en quelque sorte le dernier maillon de la démocratie. C'est vraiment le lieu de contact physique, en quelque sorte, entre les élus et les électeurs, entre les citoyens et leurs représentants. Et là, effectivement, c'est une source de tension très forte. Et il ne faut pas oublier que ce lien de proximité, surtout dans les petites communes rurales, est rendue d'autant plus difficile que les maires sont effectivement confrontés à une baisse de leur dotation, à une baisse de leurs moyens, à des exigences de plus en plus poussées des électeurs et des habitants de la commune, à des contraintes normatives et financières très fortes venant de l'État et venant aussi parfois d'autres collectivités locales, à des mécanismes d'intégration des communes dans des intercommunalités qui ne sont pas toujours joyeuses et détendues, et parfois il y a effectivement des frictions et des tensions très fortes, et donc une forme de hiérarchisation des collectivités locales les unes par rapport aux autres. Donc effectivement, on est dans un contexte à la fois spécifique, parce qu'effectivement, c'est vraiment la commune, c'est vraiment le lieu du pouvoir local, c'est vraiment le lieu où se donne à voir la démocratie au quotidien, et en même temps, c'est un phénomène plus général de mise à distance des élus, de critiques, un moment aussi de populisme et de critiques plus générales du monde de la politique. Qu'il s'agisse de professionnels de la politique ou pas d'ailleurs.
Pierre Brajoux, dans les témoignages qu'on a entendus, on entend de l'abandon, de l'arrogance de la part de l'État, le fait d'être en première ligne, de ne pas être entendu. Et est-ce que cette colère, quelque part, n'est pas totalement nouvelle non plus ? Est-ce que, selon vous, elle a récemment pris une dimension nouvelle ou est-ce qu'on a là une vieille colère qui revient régulièrement de la part des élus des communes ?
Alors, je dirais que ce n'est pas nouveau. Ça s'est amplifié durant cette dernière mandature. Mais je reviendrai sur le taux relativement important de démission de maires. Parce que il faut rappeler qu'en 2014 également, nous avons eu un fort taux de renouvellement d'élus locaux, en particulier des maires. Certains départements ont connu un taux de renouvellement de 50%. Et en début de mandature, nous, les associations départementales de maires, nous avons enregistré un nombre non négligeable de démissions dès 2014, dès 2015.
Dès la première année donc.
Dès la première année du mandat, et cette raison n'est pas la même que les démissions que nous pouvons enregistrer aujourd'hui, c'était une raison liée à la méconnaissance de ce que représente la charge d'un élu local aujourd'hui. Je crois que les témoignages des différents élus et également de Monsieur Rouban rappellent également cette grande difficulté. On attend beaucoup du maire, et en 2014-2015, nous avons eu des premières démissions qui étaient liées à des élus qui ne pouvaient pas à la fois assumer leur rôle d'élu, assumer leur vie professionnelle, et je ne parle pas de la vie personnelle.
Voilà. Vous voulez dire que ces nouveaux élus avaient sous-estimé la charge de maire ?
Ils avaient sous-estimé la charge de maire, ils avaient surtout également sous-estimé les attentes de la population locale. La population locale attend beaucoup de la commune et attend beaucoup du maire. En zone rurale, que je connais mieux que la zone urbaine, le maire on choisit son maire. On ne vote pas pour une liste, même si le scrutin municipal a quelque peu changé en 2014. Le scrutin de liste a touché toutes les communes de plus de 1000 habitants. Mais on choisit un homme, on choisit son voisin, on choisit le père des enfants que nous avons également à l'école, dans la même école. Cet homme, c'est un pilier. Je dis souvent qu'en zone rurale, quelquefois un maire qui va rater un enterrement, ça va peut-être faire sourire des auditeurs, mais un maire dans une zone rurale qui va rater un enterrement, il peut gâcher son mandat local. Parce que on attend beaucoup de lui. C'est un homme qui est un repère pour beaucoup.
Gilles Leproust. Oui, pardon. Je vais terminer le tour de table avec le maire que nous avons aujourd'hui autour de la table, Gilles Leproust. Alors, pour peut-être rebondir sur cet exemple, est-ce que ça vous est déjà arrivé de ressentir cette pression de vous dire, bon, si je loupe, alors l'exemple, cet enterrement, ou si je loupe tout autre événement important dans la commune, je vais perdre le contact ou je vais ressentir une pression derrière des électeurs et que cette pression est de plus en plus forte.
Oui, incontestablement, aujourd'hui, les choses se sont profondément complexifiées, parce que quand on additionne baisse des dotations et puis intercommunalité m'a mené au pas de charge avec des intercommunalités immenses, le rapport à l'habitant c'est souvent éloigné et seul reste effectivement le maire et l'équipe municipale, parce que moi je pense qu'il faut vraiment lier les deux, parce que on sent comme maire encore, je dirais avec de l'enthousiasme, à partir du moment où on a réussi à avoir une équipe, et c'est un véritable enjeu. Et puis par rapport à l'autre collègue qui a intervenu précédemment, je rappelle que maire, même s'il y a beaucoup d'efforts à faire, ça peut être un homme, mais ça peut aussi être une femme. Donc je le dis parce que dans ces périodes, je pense que c'est important. Même si les choses ont progressé, il reste beaucoup à progresser. Oui, donc effectivement, il y a des moments de lassitude, faut le dire, hein, des moments de... ouais, de souffrance chez un certain nombre de d'élus, parce que au niveau juridique, au niveau de d'équilibrer les budgets, au niveau des dossiers à remplir, c'est souvent le parcours du combattant. Et on peut parfois se sentir seul, effectivement. Donc c'est une des raisons pour laquelle il y a des élus qui ont jeté l'éponge.
Vous-même, Gilles Le Proust, vous avez écrit dans Le Maine Libre de ce lundi 6 août, j'ai parfois des doutes sur l'utilité de mon engagement.
Oui, enfin de mon engagement de maire, parce que je vous l'avez cité, je suis un maire communiste, donc j'essaie d'avoir du sens et par rapport et de construire avec d'autres des alternatives. Oui, il y a parfois du doute parce que il y a de l'exigence des habitants qui est légitime, mais dans une période où y compris les moyens financiers en diminution, les compétences en diminution des communes font que on n'a pas toujours les possibilités de répondre à l'attente des habitants, et ça c'est frustrant parce que quand on est élu, quand on accepte ce magnifique mandat, parce que moi je pense que c'est un magnifique mandat, c'est pour essayer de répondre aux questions des habitants, de construire avec les habitants des réponses. Et aujourd'hui, parfois, effectivement, on pète dans des impasses. Et ça, c'est assez frustrant.
Alors, il y a la question du manque des moyens qui apparaît souvent comme l'éternel problème. Et c'est vrai que cette année, on parle beaucoup donc de la baisse de la DGF, la dotation globale des financements. Il y a eu aussi l'annonce de la suppression de la taxe d'habitation qui représente, je crois, à peu près 34% des recettes fiscales en moyenne pour les maires. Et puis, il y a aussi la suppression des emplois aidés qui, de manière indirecte, impacte les mairies. Et en même temps, le gouvernement, le Premier ministre, le Président ont assuré que les communes seraient compensées de la perte de taxes d'habitation. Le président a assuré que les communes rurales ne perdraient pas un centime en 2018. Alors, Luc Rouban, baisse, oui ou non, des dotations, des financements ?
Baisse certainement, oui. Je crois qu'on peut le constater de manière très empirique et très simple. Cela étant, il faut bien voir qu'on rentre dans une période de troubles et de remise en cause de la situation. Si vous voulez, du système décentralisé, de la décentralisation telle qu'elle a été conçue dans les années 80, à partir des lois de 82, où finalement on est dans l'entre-deux, c'est-à-dire on n'est pas vraiment encore dans une recentralisation, mais on voit bien apparaître les prémices de cette recentralisation financière à travers une nouvelle politique contractuelle entre l'État et les collectivités locales, parce qu'il faudra bien trouver les moyens de réduire le nombre des fonctionnaires, et notamment qui passera notamment par la réduction du nombre de fonctionnaires territoriaux, parce que c'est au niveau de la territoriale que les effectifs ont le plus augmenté. Donc si vous voulez, les enjeux de la décentralisation sont assez complexes, impliquent une forme de recentralisation financière un peu sur le modèle britannique d'il y a une vingtaine d'années. Et en même temps, si vous voulez, on a aussi une forme de recherche, en tous les cas, chez les citoyens, chez les électeurs, chez les citoyens, les habitants, on a la recherche aussi d'une nouvelle démocratie, plus participative, plus locale, plus horizontale. Et donc, si vous voulez, on a quand même, là, on assiste quand même au conflit entre deux conceptions, si vous voulez, de l'action publique. D'un côté, une conception très managériale, centralisée, autoritaire, unilatérale, abstraite, un peu sur le modèle de ce que l'on observe dans les grands groupes privés, si vous voulez. Et de l'autre côté, vous avez la démocratie de terrain avec une demande d'horizontalité, de contact, de proximité. Et là, on assiste effectivement à une tension entre ces deux principes, entre ces deux modes d'action qui, je pense, arrivent à une certaine forme d'exacerbation aujourd'hui.
Pierre Brajoux.
Oui, je reviendrai sur les intercommunalités XXL. Effectivement, ces dernières années, et c'est une des raisons de démotivation des élus, les élus, et le Proust, maire d'Allom l'a bien expliqué, les élus sont dans l'action. Ils sont élus pour apporter des services, pour apporter un bien-être à la population de leur commune. Ces dernières années, ils ont passé leur temps à travailler sur les transferts de compétences, à travailler sur des fusions d'intercommunalités, sur le transfert de personnel, à travailler avec des cabinets d'études qui en plus coûtent un petit peu d'argent, à travailler à la mise en place de commissions. On se retrouve sur des territoires ruraux à appliquer des réformes décidées par Paris en donnant l'impression aux élus que c'est eux qui décident, mais finalement elles sont voulues par Paris et souhaitées sur Paris, et une réforme imposée dans la Gironde n'a pas les mêmes effets qu'une réforme qui s'impose dans la Lozère. Si bien qu'on se retrouve avec des intercommunalités XXL, avec 70, 80, 90 communes, des intercommunalités qui ont plus de 100, 130 conseillers communautaires, et quand vous avez 2, 3 élus des communes les plus importantes qui s'expriment, eh bien, les maires des communes de 30, 100 habitants, eh bien, pendant 4, 5 heures, ils écoutent, ils subissent. Et ils ont vraiment l'impression de ne plus rien, de servir à plus grand chose. Et quand ils reviennent dans leurs conseils municipaux, où effectivement le poids de l'équipe est important, lorsque l'équipe attend tout ce maire qui a assisté au conseil communautaire en espérant que le projet de la commune, parfois le seul projet d'une mandature, soit validé par le conseil communautaire, le maire revient dans son conseil municipal en disant bien non. Le projet sera peut-être validé au prochain conseil communautaire et sera peut-être financé lors du budget de l'année d'après. C'est donc ça. On a un grand nombre d'élus ruraux qui aujourd'hui, même au sein de leur territoire, eh bien, ne s'y retrouvent plus.
Est-ce que cette question que vous soulevez de l'intercommunalité est importante ? Est-ce qu'il y a aujourd'hui, vous diriez, une sorte de concurrence entre l'échelon de la commune et l'échelon de l'intercommunalité ? Et si je comprends bien, je vous pose la question, Gilles Leproust, puisque vous avez vous aussi, vous êtes à la fois maire et puis vous avez un pied dans l'intercommunalité. Aujourd'hui, pour avoir encore du pouvoir de décision, de l'impact, il faut avoir un pied dans l'intercommunalité parce que, en tant que maire, comme vient de le décrire Pierre Brajou, on ne peut plus faire grand-chose, les décisions sont prises ailleurs.
Le problème de l'intercommunalité aujourd'hui, moi j'appartiens à une communauté urbaine qui a été créée en 1970 sur la base d'un projet co-élaboré avec les 8 communes à l'époque. Donc, avec y compris, on s'était mis d'accord sur les compétences. Là, depuis 10 ans, de réforme territoriale en réforme territoriale, sous Sarkozy, sous Hollande, c'est des intercommunalités imposées, avec... des territoires qui correspondent même plus, pas du tout, à des bassins de vie. Et donc, plus personne s'y retrouve. Et effectivement, plus la commune est petite, et moi j'entends ce que dit le collègue, plus elle se sent isolée, qu'on prend pas en compte. Parce que le problème, c'est qu'on prenne pas en compte l'avis du maire de l'équipe municipale. C'est déjà un problème. Mais surtout derrière, c'est qu'on prend pas en compte les besoins et les attentes des habitants. Et c'est là il y a un véritable enjeu démocratique qui est posé. Parce que moi, je suis vent debout, et partout je vais, je le dis, sur cette théorie qui dirait que plus l'institution est importante, plus c'est efficace. Moi, je constate modestement dans mon territoire que plus on éloigne les lieux de décision, des lieux de vie, d'activité des habitants, plus on va des désastres démocratiques. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si dans ces 10 dernières années, quelles que soient les élections, le niveau d'abstention a augmenté.
Et en même temps, Gilles Leproust, on pourrait arguer que l'intercommunalité permet peut-être d'unir les forces, de mutualiser des moyens, de rationaliser un peu la gestion des territoires. Ce sont des arguments qui sont entendables quand même.
Ah oui, mais d'ailleurs, j'ai dit qu'en 1970, quand l'intercommunalité du Le Mans Métropole s'est mise en place, c'était sur cette base-là. C'était un projet partagé par les communes, les élus et pour une part par les habitants. Mais là, on n'est plus dans cette phase-là. C'est-à-dire que c'est des décisions imposées, c'était dit par le collègue, d'en haut, de Paris, par la loi. Et on fait pas de différence qu'on soit en Sarthe, dans les Bouches-du-Rhône ou dans le Pas-de-Calais ou en Lozère, vous voyez. Donc c'est ça qui pose problème. C'est qu'aujourd'hui, il y a une remise en cause de ce lieu qui est privilégié historiquement de la commune, où il y a un vrai rapport de proximité entre les élus, entre les habitants, avec les associations, parce que je pense que c'est ce dispositif qui fait qu'aujourd'hui on peut construire, et il s'est construit beaucoup de choses dans ce pays. Et aujourd'hui, c'est ça qui est remis en cause, et c'est inquiétant au plan démocratique.
Luc Rouban, est-ce que vous partagez ce constat d'une perte de bon sens, quelque part, de la gestion de l'intercommunalité ?
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on était parti d'une intercommunalité qui était une intercommunalité de gestion, et qui plaisait beaucoup aux maires, surtout dans les petites communes rurales, pour effectivement mutualiser leurs moyens, pour avoir davantage de possibilités d'intervenir sur des schémas d'aménagement, sur l'organisation, l'animation des territoires. Et on est passé progressivement donc de cette intercommunalité de gestion à une intercommunalité de projet. Mais qui dit projet, dit conception. Or, la conception, le pilotage et l'évaluation ne sont pas à la portée des petites communes. C'est forcément à la portée d'ensembles beaucoup plus vastes, beaucoup plus bureaucratiques, beaucoup plus hiérarchisés, qu'il s'agisse de grandes intercommunalités, qu'il s'agisse du département, de la région, de l'État, etc. Ou éventuellement de mécanismes assez complexes, plus ou moins pilotés par l'État, de contrats pour aménager des zones urbaines ou des zones rurales. Donc en fait, on assiste à une forme effectivement de technocratisation du local, mais plus, à mon avis, plus singulièrement, à une transformation des maires, surtout des maires des petites communes, en exécutants et non plus en décideurs. Et je crois que c'est là le fond du problème.
En exécutant et non en décideurs. Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, parce que dans les témoignages qu'on pouvait entendre des maires, revient beaucoup la question du burn-out, de trop de responsabilités. Donc est-ce que le fait qu'on enlève certaines responsabilités aux maires pour les transférer à l'intercommunalité, c'est pas une manière de soulager les maires qui se plaignent d'avoir trop de responsabilités? Pierre Brajoux, qu'est-ce que vous pensez de ça?
C'est très complexe, parce que une des réformes importantes de ces dernières années s'appelle la loi NOTRe. Alors on va pas rentrer dans le détail. Mais lorsqu'on se mettait à trois pour essayer de comprendre un article de la loi NOTRe pour un transfert de compétences, eh bien on avait trois avis différents. Donc d'un côté, on donne l'impression qu'on retire des compétences aux élus, mais d'un autre côté, on ne comprend pas forcément comment on doit les mettre en musique. Je reviendrai également sur une remarque de Monsieur Rouban sur le dire que ces dernières années, les collectivités locales ont recruté. Effectivement, ces dernières années, les collectivités ont recruté. Mais pourquoi? Parce que l'État s'est retiré a retiré certaines de ses missions qu'elle apportait gracieusement aux collectivités. Je pense à l'instruction des permis de construire. Précédemment, les services de l'État, dans un département, instruisaient les permis de construire. Aujourd'hui, elle ne le fait plus. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Donc, bien souvent, c'est l'intercommunalité qui a pris le relais. Il a fallu recruter. Et c'est exactement la même chose sur les passeports et les cartes d'identité. Précédemment, c'était les préfectures, les sous-préfectures qui étaient en charge complète de l'instruction de ces documents-là. Aujourd'hui, ce sont quelques communes dans les départements qui ont en charge le montage et l'instruction des demandes de permis, les cartes d'identité et les passeports. Si bien que les mairies qui ont en charge ces obligations-là, elles ont dû également recruter. Donc, quand on dit que les collectivités locales ont augmenter le nombre de fonctionnaires parce qu'elles se sont substituées à ce que l'État ne fait plus et que les citoyens attendent aujourd'hui. Alors comme ils attendent, eh bien, c'est la collectivité, la mairie ou l'intercommunalité qui se substitue à ce que l'État ne fait plus.
Donc vous parliez tout à l'heure des communes qui sont dépossédées de certaines compétences, mais si je comprends bien, il y a certaines compétences par contre qu'on leur redonne peut-être sans leur assentiment, Gilles Le Proust.
Oui, c'est à côté de ça, Monsieur Brajoux a raison. Qu'on prend les cartes nationales d'identité et les passeports, ça dessaisit le plus grand nombre de communes d'un rapport du citoyen en direction de sa commune pour faire sa carte nationale d'identité. C'est renvoyé sur un certain nombre de communes, Alonne et Baze qui accueillent les cartes nationales d'identité et les passeports, avec une compensation financière de l'État qui est ridicule par rapport au coût réel de la charge. Il y a aussi dans le débat sur les 4 jours et demi, toute une série de choses qui ont été transférées sur les communes. Nous, sur une ville comme Alonne, ça nous a coûté 80 000 euros à l'année, parce qu'il a fallu recruter des animateurs, des éducateurs, des responsables, etc. etc. Oui, donc effectivement, moins de dotations et plus de compétences transférées sur les communes, enfin, un nombre de compétences transférées sur les communes, et puis pour répondre à votre question également, et puis d'autres compétences d'une manière directive transférées sur l'intercommunalité. Donc effectivement, c'est de plus en plus compliqué de s'y retrouver, parfois pour les élus. Alors pour les habitants, ils savent parfois pas à quel guichet aller s'adresser pour pouvoir obtenir satisfaction à sa demande.
Et parmi les compétences qui pourraient être enlevées aux communes, c'est encore un projet, mais le rapport du comité d'action publique 2022 Cap 22 préconise de transférer les politiques scolaires et périscolaires aux intercommunalités. Comment est-ce qu'il faut comprendre la logique de ce type de transfert, Luc Rouban? Est-ce que l'idée derrière, c'est de dire la commune soit n'est pas capable, soit n'a pas les moyens ou n'est pas le bon échelon pour s'occuper de l'école, qui était jusqu'à présent encore la prérogative des maires?
Oui, c'est l'idée finalement de transférer à des échelons supérieurs des politiques qui portent sur des territoires plus vastes, qui soient peut-être censées être plus cohérente et, disons, plus économique sur le plan budgétaire. C'est l'idée, finalement, de renforcer des échelons supérieurs tout en gardant un tissu de petites communes qui, rappelons-le, sont quand même les anciennes paroisses de l'Ancien Régime. Donc, il y a quand même tout le tissu vivant, historique, toute la mémoire, tout le patrimoine français qui se retrouve dans ces communes. Donc, si vous voulez, vous avez cette idée de hiérarchiser les collectivités locales, de transférer un certain nombre de compétences à des niveaux supérieurs. Le problème étant que les transferts de compétences ne sont pas tous du même ordre, c'est-à-dire que certains visent effectivement des fonctions de conception comme les politiques scolaires ou de suivi ou de gestion d'un certain niveau, Et en revanche, il y a des transferts qui concernent en fait plutôt des fonctions d'exécution. Et c'est là que les petites communes souffrent le plus.
France Culture, du grain à moudre d'été, Mélanie Chalandon.
Quartier populaire invité à l'Élysée pour ce qu'il croyait être l'annonce d'un nouveau plan banlieue sur la base de l'ambitieux rapport Borloo. Mais dès l'entame de son discours, camouflet du président.
Et je ne vais pas non plus vous annoncer un plan ville, un plan banlieue, quoi que ce soit, parce que cette stratégie est aussi âgée que moi. Deux mâles blancs ne vivant pas dans ces quartiers s'échangent l'un un rapport et l'autre disant « on m'a remis un plan, je l'ai découvert ». C'est pas vrai, ça marche plus comme ça.
Pas de plan sur 3 ans, donc le président change de méthode et annonce une philosophie de travail pour plus de dignité et d'émancipation dans les banlieues. Dans son discours de plus de 2 heures, pléthore d'actions concrètes mises en place dans moins de 6 mois, on retiendra l'affectation des hébergements d'urgence hors des quartiers difficiles, un plan anti-drogue, 30 000 stages de 3e pour les quartiers populaires et des référents laïcité dans les écoles. Mais aucune annonce de déblocage de crédits spécifiques.
C'était un extrait du journal de Public Sénat diffusé le 22 mai 2018. Gilles Le Proust, Pierre Brajoux, est-ce que vous pouvez entendre quelque part l'argument, ce ne sont pas des milliards qui vont résoudre les problèmes. Tout n'est peut-être pas qu'une question de moyens. Ou bien est-ce que vous dites, avec un budget suffisant, on pourrait résoudre tous les problèmes de la banlieue spécifiquement, Gilles Le Proust ?
J'étais, moi, à ce rendez-vous. Je dois dire qu'on en est sorti assez outré, parce que l'extrait de son intervention le montre. Il y avait un côté méprisant, je dirais, pour le travail qui a été fait, parce que
dans l'attitude,
c'est comme lui qui a donné une mission au président de la République à Jean-Louis Borloo. Et on a travaillé avec les maires l'appel de Grigny, avec l'association Bleu Blanc Zèbre, avec d'autres associations, à faire des propositions. On a fait des étapes à Tour de France, des territoires gagnants, pour non pas être uniquement dans la réclamation, mais y compris valoriser ce qui était fait localement dans les différentes villes, avec les associations, avec les élus, avec les citoyens, des membres des conseils citoyens. Tout ça pour arriver effectivement à des non-réponses. La réponse, elle n'est pas uniquement dans de l'argent, mais quand même, au bout d'un moment, faut bien financer des actions. Quand, par exemple, faut plus de policiers, plus de justice, par exemple, c'est bien des choix de l'État de renforcer en termes de services publics. Pour l'éducation nationale, par exemple, la mesure de dédoubler les CP dans les REP, REP+, réseau d'éducation prioritaire pour vos auditeurs. Très bonne mesure. Le problème, c'est que c'est fait à effectif constant. Et effectivement, je prends dans le département de la Sarthe, mais on a plein d'exemples en France, cette mesure, il y aura 7 ouvertures de classe à Allonnes à la rentrée, là. Mais ça a été pris pour une part sur les écoles de milieu rural. Ça conduit parfois dans des endroits à diviser, voyez. Et en plus, pour les communes comme Allonnes, accueillir 7 classes de plus, eh bien, ça nous coûte 35 000 euros, parce qu'une classe, pour mettre des enfants, il faut acheter des bureaux, il faut repeindre des classes, il faut trouver les locaux, et tout ça sans aucun financement. Vous voyez donc, il y a des mesures, effectivement, qui dépendent de choix nationaux, et puis il y a aussi le besoin de financement pour mettre en place. Et puis, il y a tout l'accompagnement des associations. Sans les associations, nos villes, la plus petite à la plus grande, seraient mortes aujourd'hui. Bien sûr, il y a le service public local qui fait, mais s'il n'y a pas les associations, ça serait terrible. Eh bien, ces associations, elles ont besoin d'être épaulées. Et aujourd'hui, il n'y a pas de réponse concrète. On a toujours le problème de la fin des emplois, enfin la diminution forte des emplois aidés en août dernier. Aujourd'hui, il n'y a pas de réponse durable, parce qu'en plus, ils ont créé un nouveau emploi aidés, mais moins financés. Et donc, les associations, à juste raison, elles se retournent vers les collectivités qui elles-mêmes ont moins de dotations de la part de l'État. Vous voyez, donc les réponses sont vraiment pas au niveau des attentes, des besoins, et pour faire république dans tous les territoires.
Pierre Brajoux, sur la question des financements, à quel point, selon vous aussi, il s'agit vraiment de l'alpha et de l'oméga de toute politique publique, ou est-ce qu'on peut avoir un raisonnement qui se détache un petit peu? Je sais que c'est difficile, vous êtes sur le terrain, et c'est difficile peut-être comme question, mais de se dire peut-être que ce n'est pas qu'une question de financement.
Non, enfin, pour faire, il faut avoir l'envie, il faut avoir la foi, il faut avoir le soutien, et il faut aussi également avoir l'argent. La crainte aujourd'hui des collectivités et des mairies, c'est la perte de l'autonomie financière. Vous avez abordé la question de la suppression de la taxe d'habitation. Aujourd'hui, on parle qu'il y aura une compensation à l'euro juste. mais ça veut dire que les collectivités vont vivre de dotations, vont vivre d'une compensation. Et aujourd'hui, la crainte principale, parce que pour réaliser des projets, il faut maîtriser son budget, il faut le connaître, il faut avoir la maîtrise de ses recettes. Et la crainte aujourd'hui des collectivités, et nous n'avons pas encore d'explication sur l'après, surtout en 2020, ce qui va se passer sur cette suppression de la taxe d'habitation, la crainte, c'est la perte d'autonomie financière des collectivités.
Luc Rauban, une mise sous autonomie des collectivités. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, Luc Rauban, que quelque part l'État a l'intention de faire disparaître les communes, voire certaines communes peut-être ?
Non, enfin bon, effectivement, il y a toujours eu un processus de fusion ou de regroupement des communes ou un processus, disons, une volonté de limiter le nombre de collectivités territoriales. Cela étant, moi, je pense plutôt à un processus d'instrumentalisation, c'est-à-dire qu'effectivement, on garde en fait c'est un peu le village Potemkin. On garde l'apparence du local, ça a le goût du local, mais c'est plus vraiment local. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus qu'une délégation d'entités supérieures, que ça soit l'État ou l'Europe, etc. Donc, effectivement, on a quand même peut-être là, on aboutit ici à la fin d'une certaine lecture de la décentralisation. Parce qu'il faut se rappeler que dans les années 90, beaucoup de commentaires étaient très favorables à une forme de territorialisation, disant mais l'État a disparu, c'est fini, il n'y a plus que des territoires, il y a l'Europe, les territoires, l'État n'existe plus, etc. etc. Bon. On connaît bien ce discours qui a été très développé dans certains milieux des sciences sociales. Et puis finalement, en fait, on se rend compte aujourd'hui qu'on a un retour en force de l'État pour différentes raisons, aussi bien pour des raisons budgétaires que pour des raisons aussi régaliennes, de problèmes de sécurité, de terrorisme, etc. Vous avez aussi, sur le plan idéologique, une demande d'autorité qui est quand même très forte dans l'opinion publique française. Vous avez une demande aussi d'efficacité qui donc pousse à aller vers une forme de managérialisation, si je peux me permettre l'expression, de l'action publique, avec des solutions qui sont plus ou moins empruntées au secteur privé. On sait très bien que ça fonctionne pas bien. On l'a vu aussi, notamment au Royaume-Uni, dans différents pays européens. Et donc finalement aujourd'hui on assiste à une forme de, je dirais, de décomposition de la formule initiale de la décentralisation qui fait que effectivement on a des entités locales qui vont être de plus en plus dépendantes d'un financement extérieur puisque de toute façon elles n'ont pratiquement aucune marge de manœuvre en matière fiscale. Et donc là on doit se poser la question de savoir s'il ne faut pas reconsidérer complètement ce mécanisme, cette architecture institutionnelle de la décentralisation et de l'État en France. Question qui est posée, évidemment, pour des raisons budgétaires, mais aussi pour des raisons notamment aussi culturelles. On le voit bien avec le cas de la Corse. Donc il y a un certain nombre de problèmes qui se posent, qui sont en général traités dans les autres pays européens au niveau, disons, l'équivalent des régions, ou des Länder en Allemagne, ou de grandes, ou les communautés autonomes en Espagne. Donc effectivement, il y a un problème d'équilibre entre centre et périphérie, qui n'est pas réglé. Pour l'instant, on va plutôt vers une forme de modification unilatérale de l'État vers les collectivités locales. Je crois qu'on arrive au dernier degré de la décomposition la formule décentralisatrice de 1982.
Alors, pour revenir peut-être à notre question initiale, celle de la crise des vocations des maires, celle des démissions en série qu'on a pu constater depuis 2014. Pierre Brajou, je voulais vous demander, on dit souvent que les élus, les locaux, en particulier les maires, sont les élus les plus proches des citoyens, ceux en qui on a le plus confiance. Et en même temps, d'après les chiffres du CEVIPOF, cet indice de confiance envers les maires est en train de baisser. Comment est-ce que vous l'expliquez ?
Alors, le maire, effectivement, c'est l'élu que la population connaît le mieux. Dans une commune, lorsque vous avez un élément important et grave qui se passe, les premiers acteurs qui sont sur le terrain, souvent même avant les secours, c'est le maire, son équipe municipale et les employés communaux. Une tempête, une crue, etc. Le maire est très présent. Parallèlement, nous avons une population, des administrés qui sont de plus en plus exigeants également. Et du coup, le maire, c'est normal qu'il soit là lorsqu'il y a un problème grave dans la commune. Mais du coup, les administrés ne comprennent pas que le maire ne puisse pas répondre à tout rapidement, efficacement et de façon avec facilité, sans que forcément l'administré ait conscience que le service qui est apporté par la collectivité, il ne le paye pas forcément au juste prix. la cantine scolaire, le ticket de transport, etc. Donc quand ça fonctionne pas, c'est le maire qui est responsable. Mais de notre côté, si l'administré avait conscience qu'il ne payait pas le juste prix et qu'il devait payer le juste prix ou de l'entrée de la piscine, qui sont des éléments coûteux, mais finalement nécessaire dans une grande ville. Donc c'est très ambigu et c'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui à cette morosité des élus, parce que ils savent que la population attend beaucoup d'eux. Eux-mêmes ont envie, parce que lorsque vous décidez d'être élu local et vous en avez un sur le plateau, vous le faites pas pour par ambition, ou vous ne le faites surtout pas pour gagner plus d'argent, parce que vous l'avez dit en introduction, l'indemnité des élus et surtout des petites communes est vraiment ridicule. On le fait parce qu'on aime les gens. L'élu local, le maire, il aime sa population. Et aujourd'hui, il se retrouve à la fois à envie d'apporter des services, à envie de développer, mais dans un même temps, on lui baisse ses dotations. Donc, c'est effectivement assez complexe et il faut avoir une sacrée carapace aujourd'hui pour être élu. Surtout dans les secteurs difficiles.
Des citoyens, des administrés qui sont de plus en plus exigeants et qui se rendent compte de moins en moins de la valeur des services qui leur sont apportés. C'est la seule explication, Gilles Le Proust. Enfin, déjà, est-ce que vous y souscrivez? Et est-ce qu'il n'y a pas d'autre explication à la perte de confiance des Français envers leurs élus locaux?
Je pense que c'était dit depuis le début de l'émission, on traverse quand même une crise politique profonde et que la confiance des Français envers celles et ceux qui ont des responsabilités, que ce soit les élus, mais on ressent y compris dans les associations, on le ressent dans l'entreprise. Aujourd'hui, il y a un vrai doute, et donc c'est dans ce climat général, y compris que il faut certainement appréhender ce qui se passe au niveau des collectivités. Avec quand même, pour les maires, bien sûr, il y a un phénomène. Alors je méfie toujours 55%, il faudrait voir de quel chiffre ça part, parce que moi je rencontre dans le département de la Sarthe, il y a eu quelques démissions de maires, effectivement, mais il y a encore des centaines, plusieurs centaines de maires et des milliers de conseillers municipaux, du plus petit village à la grande ville du Mans, qui passent du temps, qui ont toujours autant d'enthousiasme, etc. Donc je pense qu'il faut aussi qu'on fasse une juste appréhender, il faut bien appréhender la chose. Après, la question que vous posez sur est-ce qu'ils demandent trop, est-ce qu'ils sont trop exigeants, les habitants? Moi, je pense même que des fois, il faudrait qu'ils soient encore plus exigeants. Parce que le niveau de développement de notre pays, effectivement, nécessite d'avoir des réponses adaptées, modernes, dynamiques. Et peut-être que là, les élus, on a eu un défaut, les maires en particulier, c'est qu'on n'a pas suffisamment expliqué. Monsieur Brajou parlait du juste prix. Moi, je parlerais de service public local. Parce que le service public local, il est pour permettre aux habitants, quelles que soient leurs ressources, de pouvoir accéder à un certain nombre de droits qui sont des droits fondamentaux et qui sont des droits importants, parce qu'autrement, les inégalités sociales font qu'il y a trop de gens qui sont exclus d'un certain nombre de services. Et je pense qu'on n'a peut-être pas toujours suffisamment expliqué que, et ça revient à la question de la taxe d'habitation, que l'impôt est élément, parce que le juste prix, ce que vous payez pas dans le cadre du prix au service de l'entrée de la piscine, par exemple, vous le payez par une part dans le cadre des impôts que vous payez. Et donc peut-être qu'à des moments donnés, on n'a pas suffisamment expliqué, réhabilité l'impôt. Moi, je pense que l'impôt, quand il est justement réparti, c'est ce qu'il y a de plus juste et qui permet de faire société, de vivre ensemble. Parce que une commune aujourd'hui, on le voit bien d'ailleurs les drames que ça a fait dans les communes, que ça peut produire dans les communes rurales où il n'y a plus de bureau de poste, où l'école, elle disparaît. Donc le service public de proximité, il y a un sentiment d'abandon. Et donc je pense que peut-être là, alors, avec l'association des maires de France, avec l'association Ville et Bourlieu, puis avec d'autres associations, on essaye de travailler à avoir des débats, y compris au plus près des habitants, pour faire de l'éducation populaire, tout simplement, pour qu'ensemble, avec les habitants, les élus, les associations, eh bien, on relève les défis qui nous sont posés aujourd'hui.
Luc Rouban.
Oui, je voudrais revenir sur cette question de proximité. Elle me paraît tout à fait cruciale pour comprendre la relation de confiance vis-à-vis des maires. Bon, il se trouve que je fais partie de l'équipe qui s'occupe du baromètre de la confiance politique du CEVIPOF, donc j'ai un peu étudié les facteurs qui jouaient sur le niveau de confiance dans les maires, avec un échantillon assez important d'enquêter. Donc on voit surtout une chose, c'est que la première variable, premier facteur, dans la variation du niveau de confiance, ce ne sont pas les résultats économiques, budgétaires, etc. Les électeurs ne vont pas voter pour leur maire avec les données de l'INSEE en main, comme le pensent certains économistes. Voilà, on regarde les données, le taux d'endettement de la commune, etc. Non, non, pas du tout. Ce qui compte le plus, c'est la confiance interpersonnelle, c'est-à-dire la capacité que les électeurs ou que les habitants ont de faire confiance spontanément à des personnes diverses, variées, qu'ils peuvent rencontrer, qu'ils rencontrent pour la première fois, etc. Donc on peut construire un indice de confiance interpersonnelle, et c'est cette confiance interpersonnelle, plus elle est forte, plus on a confiance dans le maire. Et ensuite, statistiquement, bon, je vous ai parlé des détails, mais ensuite, le deuxième niveau d'analyse, c'est la taille de la commune. Et en fait, plus la commune est petite, plus la probabilité est grande que le niveau de confiance soit important. C'est pour ça que là, le problème, si vous voulez, c'est quand on dit les maires, il faut évidemment être très attentif au débat, parce que le maire rural d'une petite commune de 500 habitants, c'est pas le patron de Paris, Lyon, Marseille, quoi.
Donc, quand vous dites confiance interpersonnelle, Luc Rouban, est-ce que vous voulez dire la relation donc des administrés directement à leurs édiles, c'est cela ?
Non, la relation que les électeurs, que les citoyens portent à des personnes, par exemple, qui rencontrent pour la première fois, qui sont d'une autre religion, etc. Donc, si vous voulez, la capacité que l'électeur, que l'habitant, que le citoyen a de développer une forme d'empathie avec avec autrui, avec l'autre, si vous voulez. Hein. Et donc, effectivement, on rejoint la question de l'éducation, de la culturation politique, de la socialisation politique pour améliorer cette relation de confiance. Et ça, c'est tout à fait fondamental. Et le problème étant, toujours, que la question de la taille de la commune reste toujours un point essentiel et décisif dans cette relation de confiance.
Et justement, sur les petites communes, les communes rurales, les maires se plaignent d'être trop sollicités, de devoir être partout sur le terrain, de jouer un peu tous les rôles. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à revoir dans la fonction même du maire, dans son statut ? Vous avez évoqué un peu le rôle des conseillers municipaux, mais pourquoi est-ce que toute la responsabilité semble reposer sur les seules épaules du maire, et en particulier dans les petites communes, Pierre Brajou ? Est-ce qu'il ne faudrait pas repenser un peu cette personnalisation quelque part?
Alors déjà, en France, on peut chiffrer à peu près le nombre de communes à 35 500 communes. Dans ces 35 500 communes, nous en avons à peu près 30 000 communes qui ont moins de 2 000 habitants. Donc ce que disait monsieur Rouban sur la proximité, vous avez plus de 30 000 communes en France où nous avons la population qui a un lien très particulier avec le maire, puisque le maire est connu avant même qu'il soit élu. Et si tout repose sur lui, c'est parce que tout simplement, le seul service public qui bien souvent existe dans ces collectivités-là, c'est la mairie. Et aujourd'hui, où on chiffre à peu près à un tiers de la population qui est en rupture avec le numérique, lorsque vous ne savez pas changer votre carte grise avec le nouveau logiciel mis en place par les services de l'État à grand bruit de publicité en novembre dernier, eh bien, la personne qui n'a pas de connexion Internet et qui ne sait pas du tout manier l'outil informatique, qui elle va voir ? Elle va voir la secrétaire de mairie, elle va voir le maire. Et du coup, le maire se doit d'apporter une réponse à cette personne qui ne sait pas remplir et qui ne sait pas se débrouiller sur un outil mis en place par les services de l'État, mais sans que l'État ait conscience qu'aujourd'hui, on chiffre à un tiers de la population qui n'accède pas à Internet.
On arrive à la fin de l'émission. Un dernier petit mot, Gilles Leproux, sur cette question de la personnalisation, l'hyper-personnalisation sur les maires, la responsabilité des maires.
C'est toutes les contradictions, effectivement, où on ressent cela, mais dans le même temps, il y a aussi la volonté, c'était dit, des habitants de vouloir participer. Donc, il faut trouver un juste milieu, et je pense qu'une des réponses, c'est dans un travail d'équipe et d'associer le plus possible tout au long du mandat les habitants.
Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Gilles Leproust, maire d'Allonne. Merci à vous, Pierre Brajou. Je rappelle que vous étiez en duplex des studios de France Bleu, Loire-Océan, à Nantes. Un grand merci à Stéphane Martin, à Nantes. Et puis, merci à vous, Luc Rouban, sociologue spécialiste de la fonction publique. Je rappelle votre ouvrage, La démocratie représentative est-elle en crise à la documentation française? Et puis, eh bien voilà, merci beaucoup aussi à l'équipe du Grain à Moudre d'été, Laila Saïdi, Imen Mélaz, Isulte Sicard, Copelia Ménardi et Marine Lerouge. Réalisation Alexandra Longuet. Prise de son Kevin Boisseau. Les références, les ouvrages, les infos, la réécoute, et bien c'est sur franceculture.fr à la page du Grain à Moudre d'été. On se retrouve demain, 18h15, avec cette question: l'Italie vers une xénophobie décomplexée.